votre fidélité et merci de suivre ce café de presse organisé par Vox Congo, le quatrième café de presse sous le thème « L'état de lieu de l'application de l'accord du 31 décembre 2016 ». Vous le savez, au terme des discussions du centre interdiocésain sous la médiation de la conférence épiscopale nationale du Congo, les délégués ont signé un accord. L'accord fixe notamment la tenue des élections présidentielles, législatives et provinciales au plus tard le 31 décembre 2017. L'accord officialise la gestion consensuelle de l'exécutif entre le pouvoir, l'opposition et la société civile. L'accord institutionnalise en même temps le comité national de suivi de l'accord comme institution d'appui à la démocratie. 6 mois après, il était important de faire une évaluation de la mise en application de cet accord, d'autant plus que la date du 31 décembre pointe à l'horizon. Et c'est donc à cet exercice que nos panélistes se sont livrés. Il s'agit de François Ndékuyé, député national élu du PPRD au Rutshuru dans le Nord Kivu. Il a représenté à ce café de presse la majorité présidentielle. Odette Babandoa, présidente du parti Union des Patriotes Républicains, opposition signataire de l'accord. Gérard Bissambou, il a représenté lui la CENCO, c'est-à-dire la médiation, parce qu'il a pris part au dialogue du centre interdiocésain en tant qu'expert pour le compte de la CENCO. Il est en même temps secrétaire exécutif d'Agir pour les élections transparentes et apaisées à État. Enfin, le quatrième panéliste, Maître Bopol Mupenda, chargé des programmes à l'Association congolaise pour l'accès à la justice à Cage. Il a représenté à ce café de presse Maître Georges Kapiamba, coordonnateur exécutif de la Cage, qui a pris part aux discussions pour le compte de la société civile. Je vais vous laisser suivre ce café de presse. Je suis Rachel Kitita à la présentation de ce magazine Vox Congo. Très bonne condition d'écoute à tous et à toutes.
Je vous remercie d'abord de m'associer.
Je voudrais rappeler un peu l'histoire. C'est depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, le Congo connaît beaucoup de problèmes, de multiples problèmes qui sont nécessairement liés au problème de légitimité de ces institutions. Et nous sommes passés de crise en crise, 1960, 64, jusqu'à l'arrivée de l'AFDEL, et jusqu'au moment où nous sommes allés à Sun City pour qu'on arrive à se mettre d'accord, surtout à trouver la légitimité pour les institutions qui devaient gouverner la République démocratique du Congo. Ce qui fait que de 1998 à 2003, nous avions été à Sun City. C'était toujours à la recherche d'un consensus pour que nous ayons les élections. Et nous sommes rentrés de Sun City avec un résultat, le dialogue avec ces résolutions qui a permis que nous ayons les élections en 2006. Pour les Congolaises et les Congolais, ces élections devaient nous conduire à asseoir la démocratie qui pouvait permettre le développement du pays. On avait beaucoup misé sur ces élections-là de 2006. Malheureusement, le bilan de la gestion de l'État n'a pas été très reluisant. Nous avons connu beaucoup de crises. Il y a la pauvreté qui a continué, la misère, la souffrance. Et le peuple a crié qu'avec cette gestion-là des institutions ici de 2006, nous allions corriger les choses avec les élections de 2011. Vous avez vu l'engouement qu'il y a eu en 2011. Les Congolaises et les Congolais sont allés vraiment massivement aux urnes. Il y avait des témoins, il y avait des observateurs internationaux. Mais à la fin de compte, ces élections nous ont encore ramenés au chaos. Parce qu'on s'est retrouvés avec un président proclamé par la structure chargée des élections et un autre président qui s'est autoproclamé. Et nous avons continué encore dans la crise. Au lieu que les acteurs politiques mesurent la hauteur de notre problème et que se mettent ensemble pour trouver un consensus pour une bonne gestion de la République, pouvoir faire respecter la Constitution pour nous conduire dans les 5 ans qui allaient suivre à de bonnes élections et pouvoir résoudre le problème de la légitimité. Les acteurs se sont complets encore dans leurs intérêts personnels. Pendant les 5 ans, nous ne sommes pas arrivés à organiser les élections. C'est ça qui nous a conduit, encore une fois de plus, à recourir à une structure non constitutionnelle pour trouver un consensus pouvant nous permettre d'aller aux élections. Nous sommes allés au dialogue à la Cité de l'Union africaine par décret du chef de l'État et la résolution 2267 des Nations Unies qui nous a conduits à la Cité de l'Union africaine. Et je crois que c'est le travail abattu à la Cité de l'Union africaine qui est la matrice, la base de l'accord de la Saint-Sylvestre. Parce qu'en lisant ces deux accords, vous trouvez que c'est le travail qui a été fait à l'Union africaine qui a été tout simplement enrichi peut-être de quelques dispositions qu'on n'a pas pu avoir à l'Union africaine pour qu'on ait l'inclusivité. Parce qu'à l'Union africaine, nous étions tous là, tous les acteurs politiques, même la CENCO aussi était là. Mais c'était une partie de l'opposition qui a manqué et à la recherche de l'inclusivité, nous sommes rentrés pour obtenir la médiation des évêques. De cette médiation des évêques, qu'est-ce qui a été convenu? De la médiation des évêques, il a été convenu qu'on organise les élections au plus tard décembre de cette année. Et pour arriver à organiser ces élections, les bonnes cette fois-ci, il y avait des préalables. Il fallait refondre complètement le fichier électoral qui a, après les avis des experts, il y avait beaucoup de choses à corriger sur le fichier de 2006, sur celui de 2011. Donc il fallait avoir un nouveau fichier électoral. L'accord de la CENCO a prévu qu'on ait les élections en décembre 2017. Mais à l'Union africaine, on avait prévu qu'on allait avoir les élections au mois d'avril 2018. Tout simplement parce qu'on avait suivi les explications des experts sur l'organisation des élections. Alors, si nous tenons à ce que nous ayons les élections en 2017 décembre, c'est qu'à partir du 1er octobre, on doit convoquer le corps électoral. Et jusque-là, tel que nous voyons les choses, je crois qu'on n'a pas encore fini l'enrôlement. Et dans l'accord, nous avons le regret de constater qu'il n'y avait pas de date précise dans cet accord-là. On a laissé beaucoup d'ouverture aux signataires. Au plus tard, décembre, nous allons avoir les élections, nous allons organiser les élections. Toutefois, les signataires peuvent apprécier de la durée. C'est qu'il y a une ouverture. Et il n'y a pas vraiment de contrainte qu'au mois de décembre, nous allons avoir les élections. Si ce chronogramme-là n'était pas d'une manière fixe, avec date, timing d'exécution, nous croyons qu'il y a eu quand même une certaine défaillance à ce niveau-là. Il y avait le problème de financement. Le projet du budget qu'on était parti déposer mais qu'on a adopté, dans le projet-là que j'avais lu, il y avait 17% du budget qui était prévu pour les élections. Si on avait prévu les 17% du budget, 8 milliards, si on prend 17%, c'est qu'on est au-delà de 1 milliard. Nous pouvons espérer que si le 1 milliard peut être débloqué, c'est qu'on aura l'argent pour l'organisation des élections. Un autre problème qui devait permettre la bonne tenue des élections, c'est le problème de la sécurité. On avait chargé les acteurs à ce qu'ils sécurisent l'ensemble du territoire national. En dehors de la sécurité, il faut permettre à tous les Congolais, à toutes les Congolaises d'aller aux élections le même jour, dans les mêmes conditions. Il y avait beaucoup de déplacés de guerre. Et aujourd'hui, le nombre de déplacés n'a fait qu'augmenter. Chaque matin, quand on se réveille, à Beni, il y a toujours des problèmes. C'est que le problème de la sécurité se pose encore avec beaucoup d'acuité. Nous sommes tous en train de suivre ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Des évasions partout, nos prisons se vident, il y a quand même des bandits de haut rang qui sont dans ces prisons-là, qu'on ne sait pas contrôler. Ceux de Beni sont partis, ceux de Kinshasa sont partis, en espérant que demain, lors des élections, ces gens-là ne vont pas se retrouver armés dans la rue pour créer l'insécurité et conduire ainsi à un autre chaos avant qu'on puisse terminer le processus. La décrispation du climat politique, notamment en obtenant la libération de certains de nos compatriotes et d'autres qui sont détenus, condamnés à l'extérieur du pays, obtenir leur libération. C'est un dossier qui pèse encore sur le gouvernement. Nous n'avons pas encore vu le début, en espérant que celui qui est là, le Premier ministre, qui est ici de l'opposition, il va s'investir pour qu'on arrive à la décrispation du climat politique. Si on fait l'évaluation du processus, moi j'estime que peut-être la CENI est en train d'évoluer avec l'enrôlement, mais le gouvernement, l'exécutif et le Parlement ont encore beaucoup à faire. La loi sur les élections, la loi électorale qui devait être modifiée en urgence, le Parlement est parti en vacances, alors que c'était une priorité, nous n'avons pas pu obtenir cette loi. La loi organique pour la mise en place de CELSA qui devait constituer une priorité, cette loi n'a pas été promulguée. Je ne vais pas conclure en disant que moi je suis pessimiste pour obtenir les élections en 2017, mais un miracle peut toujours s'opérer. S'il y a la volonté politique, on peut y arriver. C'est à peu près ça que moi je peux dire.
Merci beaucoup, Madame Odette Bavandoua. Je passe maintenant la parole à Maître Bopol Mopemba, chargé des programmes à l'Association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ, société civile, et on prépare au dialogue du centre interdiocésain.
Merci. L'accord de la Saint-Sylvestre avait comme mission de préparer les terrains en vue de la tenue dans le pays des élections pacifiques, crédibles, ouvertes à tous, transparentes, dans le respect des délais qu'il prévoit et aussi dans le respect des droits de l'homme. Alors, il y a eu des acquis de l'accord de la Saint-Sylvestre. Notamment, nous avons les participants au dialogue de la Saint-Sylvestre se sont convenus d'organiser, ou soit de parvenir à organiser les élections à la fin de l'année 2017, donc en décembre 2017. Mais il y avait des préalables, comme Madame l'a soulevé, je ne vais plus revenir sur ça. Mais il y a eu aussi une sorte de prolongement de toutes les institutions à mandat électif qui étaient déjà hors mandat, qui étaient déjà fin mandat, et les participants se sont entendus ensemble que les institutions à mandat électif qui étaient hors mandat pouvaient continuer à gérer le pays, mais cette fois-ci, il fallait mettre un gouvernement d'union nationale qui sera dirigé par le Rassemblement. Et aussi, les participants se sont convenus de ne pas, pour cette période, faire recours au référendum. Et parmi les acquis de la décrispation politique et de l'accord, il y a aussi les mesures de la décrispation politique. Le chapitre 5 de l'accord de la Saint-Sylvestre énumère 9 mesures de décrispation politique préalable à l'organisation des élections. 6 mois après l'adoption de l'accord politique global inclusif, la situation des droits de l'homme reste préoccupante. Le pays connaît une augmentation des violations des droits de l'homme dans le cadre du processus électoral sur l'ensemble du territoire national. Les types de violations les plus enregistrés sont des atteintes à la liberté d'association, des réunions et manifestations pacifiques, d'expression et d'opinion, et à la sécurité de la personne. Les auteurs de ces violations sont principalement des agents de la police nationale congolaise, des agents de l'Agence nationale des renseignements, l'ANR, et les magistrats. Et les victimes sont principalement des membres de l'opposition politique et de la société civile et des journalistes et autres professionnels de médias. Il y a aussi la restriction à la liberté d'expression et des attaques à la sécurité de ceux qui expriment des opinions divergentes envers le gouvernement et ses actions, ainsi que la différence des standards appliqués à la liberté de réunion par les autorités locales et les forces de sécurité en fonction de leur appartenance politique. Donc, c'est-à-dire tout celui qui organise des manifestations est confronté par des décisions qui sont prises par les autorités administratives interdisant ces manifestations. Alors, généralement, ces manifestations sont régulièrement et violemment réprimées par les forces de sécurité. Elles sont soit interdites carrément par les autorités politiques administratives, alors que celles organisées par les partis du pouvoir ou les partis de la mouvance présidentielle se déroulent sans incident. Dans ces différentes résolutions, à savoir 2277, 2293 et 2348.6, les conseils de sécurité des Nations Unies exhortent le gouvernement et toutes les autres parties concernées à créer les conditions nécessaires pour que le processus électoral soit libre, juste, crédible, ouvert, transparent, pacifique et conforme au calendrier électoral et à la constitution congolaise. Qu'il s'accompagne d'un débat politique libre et constructif et que soit assurée la liberté d'opinion et d'expression, y compris pour la presse, la sécurité de tous les acteurs politiques et la liberté de circulation de tous les candidats ainsi que les observateurs et témoins, des journalistes, des défenseurs des droits de l'homme et des acteurs de la société civile, notamment des femmes. Sur l'ensemble du territoire national, le droit de l'homme et les libertés fondamentales doivent être respectées par le pouvoir public. Il s'agit entre autres des libertés de la presse, de réunions, d'associations, des manifestations, des mouvements. Il faut garantir un accès libre et égal de toutes les forces politiques et sociales à la RTNC par exemple. Il faut également mettre fin à l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire par le pouvoir en place contre les opposants politiques et les membres de la société civile. Pour construire des conditions d'apaisement général et de décrispation politique, le gouvernement devrait obtenir la libération immédiate des prisonniers politiques et d'opinion et la cessation des poursuites judiciaires en cours contre les opposants et les acteurs de la société civile. Et donc, en ce jour, sur cette mesure qui est censée contribuer à la libération des prisonniers politiques, nous notons que rien n'a encore été fait. Parce qu'il a été consenti qu'il fallait d'abord que sept cas emblématiques obtiennent la liberté ou soit ceux qui sont poursuivis obtiennent des mesures qui pouvaient arrêter toutes sortes de poursuites et les permettre ainsi de revenir au pays pour participer aussi au processus électoral. En ce jour, il y a par exemple le cas de Floribert Anzuluni, de Moïse Katumbi, Jean-Claude Muyambo et les autres qui étaient cités parmi les cas. Ces cas n'ont pas encore été résolus jusqu'à ce jour. Mais pour contribuer à la décrispation politique, nous disons que le pouvoir a plutôt contribué à la crispation politique. Parce que, comme nous l'avons tracé ici, le tableau est sombre et rien n'est fait sur ce point-là jusqu'à maintenant. Vu l'urgence et l'impérieuse nécessité de tenir les élections dans les délais prévus par l'accord du 31 décembre 2016 pour stabiliser le pays et renforcer la démocratie et l'état de droit, la transparence et l'honnêteté des élections sont une condition sine qua non pour la consolidation de la paix sociale. Le renforcement de la démocratie et de l'état de droit en RDC, les irrégularités de 2011 doivent nous amener à mettre en place un dispositif solide et efficace contre la fraude électorale en vue de renforcer la transparence et l'honnêteté des élections. C'est ce qui fera respecter la volonté du peuple issu des urnes et la légitimité démocratique des élus et des dirigeants politiques s'il faut protéger à tout prix la vérité des urnes. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Maître Bopol Mupemba de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, la CAJE. Je vais passer maintenant la parole à M. Gérard Bissambou. Il représente la médiation, la Conférence épiscopale nationale du Congo. Il a pris part au dialogue du Centre interdiocésain en tant qu'expert pour le compte de la SANCO. Et c'est à ce titre qu'il représente officiellement. Il a été mandaté par la SANCO pour la représenter. Il est membre de l'AETA Agir pour les élections transparentes.
J'ai participé donc au dialogue de la SANCO comme expert au niveau de la cellule stratégique, mais je représentais la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées, AETA, qui a de l'expertise électorale au niveau de la cellule de stratégie. Je vais donc intervenir ici à double titre. Pour certaines choses, je serai obligé de dire ce que la SANCO pourrait penser. Mais pour d'autres choses, je serai amené à donner la position de l'AETA, étant donné que nous sommes une plateforme qui travaille spécifiquement sur la question électorale, mais surtout parce que je n'ai pas eu le temps de me concerter avec le secrétaire général de la SANCO par rapport à certaines positions. Donc il ne faudra pas que certaines choses que je dirai ici soient placées à sa responsabilité. Je voudrais souligner cela. Donc j'ai eu la chance aussi de participer au dialogue de la cité de l'OIA. Et là, je suis allé comme société civile. J'en suis sorti quelque temps avant la clôture des travaux. Je vous remercie d'avoir pensé à une telle rencontre. Et je dois vous dire qu'il y a aussi, à travers la cité, des dynamiques de jeunes qui sont déjà impliqués dans ce travail, qui évaluent, de manière à faire des projections par rapport au mois de décembre. Donc si, avec les journalistes que vous êtes, étudiants, société civile, s'ils sont ici présents, nous pouvons faire une coalition de manière à ce que le 31 décembre 2017 puisse nous amener à une solution durable et efficace. Ça sera une bonne chose. Il faut qu'on note que la crise que nous avons aujourd'hui est d'abord une crise constitutionnelle. Évidemment, une crise qui a des projections sur le plan politique et sur le plan social. Et constitutionnelle, pourquoi ? Parce qu'en fait, comme la Constitution le dit, nous n'avons pas été capables à organiser les élections dans le délai constitutionnel. Je dis nous, mais c'est surtout le pouvoir en place. Évidemment, avec le pouvoir, il faut joindre les acteurs politiques. Même ceux qui sont dans l'opposition, en 2015, ils ont eu en fait, par leurs actes, attitudes et pratiques, à cautionner ce dépassement du délai. Et nous disons que cette crise politique a eu comme conséquence, et jusque maintenant d'ailleurs, la méconnaissance et en fait la contestation de la légitimité du pouvoir en place. Aujourd'hui, peut-être que cette légitimité peut encore être effective parce que l'accord est arrivé. Donc c'est l'une des valeurs ajoutées, l'un des apports importants de l'accord. Comme vous le savez, notre constitution conseille que toute crise se résolve par le dialogue. Dans son exposé des motifs. Et le dialogue a été initié, d'abord de la cité de l'OIA, sur base d'une ordonnance signée par le président de la République. Et puis finalement, on a constaté qu'il n'y avait pas tellement d'inclusion, mais en même temps aussi, pour avoir été participant à ce dialogue, je crois que sur le plan pédagogique, ça avait joué. Ça, c'est mon point de vue. Il n'engage que moi. L'accord, en tant que tel, comme je l'ai dit, avait, en fait, devait arriver à la nécessité de dégager un consensus. Et l'accord s'est donné comme objectif, d'abord un, de fixer une échéance consensuelle pour l'organisation des élections, laquelle impliquerait l'effectivité de l'alternance politique, mais de trouver aussi un compromis global sur la cogestion du pays par les parties prenantes après le 19 décembre 2016, date de la fin du deuxième et dernier mandat du chef de l'État en place, mais aussi de déterminer les modalités concertées de suivi-contrôle de l'organisation effective des élections, de telle sorte que ça soit fait de manière crédible, et enfin de rétablir la confiance entre acteurs au travers l'ouverture de l'espace politique et social. C'est l'aspect que Bopol vient de développer. Quels sont les acquis? Je vais évoquer quelques-uns. Il l'a dit, l'engagement au respect de la Constitution. Pas de révision de la Constitution, ni changement, bien qu'aujourd'hui l'on commence à avoir des tendances d'aller vers le référendum. Évidemment, on se fonde sur l'article 5 de la Constitution. Cet article-là a pris 2 semaines de discussion et on a intégré juste un Français, nonobstant. Les juristes qui sont là et qui sont dans les différents partis politiques peuvent interpréter ça à leur manière, mais en fait, la volonté de la population, c'est qu'on n'aille pas au référendum. Il y a l'engagement du chef de l'État à ne pas briguer un troisième mandat. Et lui-même, à travers ses différents discours, il l'a dit, et l'accord l'a rappelé en insistant. Il y a le respect des institutions et des lois de la République. Ça, c'était vraiment rappelé. Le renouvellement de l'engagement solennel à promouvoir l'indépendance du pouvoir judiciaire. À vous de voir si nous vivons sous le coup des institutions judiciaires indépendantes. C'est une petite évaluation. Maintien de l'institution en mandat électif. Cet aspect ici, c'est en fait le résultat le plus plausible, parce que ces institutions-là existent, disons, illico, et de manière spontanée. Elles ont la légalité, étant donné que la Constitution leur en donne, la légitimité leur avait été conférée et les institutions sont fonctionnelles. Donc ça, c'est l'un des aspects qui est en fait mis en œuvre. Je voudrais aller de cette manière-là. Il y a la cogestion au niveau de l'exécutif national, avec un premier ministre qui devait être présenté par le Rassemblement, l'opposition non signataire, donc Rassemblement, à la nomination du président de la République conformément à l'article 78. Je dois vous avouer que les politiques et de la majorité et de l'opposition se sont piégés à ce niveau-ci. Alors que les uns ont dit il faut présenter au lieu de proposer, les autres les ont piégés avec l'article 78. Et chacun interprète à sa manière. Il y a d'autres qui disent que les compétences à ce niveau-ci sont liées à l'accord, étant donné que la Constitution ne pouvait pas prévoir à la fois quelque chose qu'elle n'aimerait pas. Ça signifie quoi? Prévoir la limite de l'organisation des élections et dire encore qu'au-delà de cela, que faire? Ça, c'est un peu un problème au niveau de notre Constitution. Et les autres disent, non, c'est pas lié, la Constitution est encore d'application, c'est conforme à l'article 78 et c'est ce qui a bloqué que l'arrangement particulier ne soit pas signé. Il y a la refonte du fichier électoral, nous sommes en train de suivre cela. D'abord, par rapport à la cogestion, j'aimerais que vous-même vous puissiez évaluer. Je crois qu'une cogestion des institutions avec un gouvernement actuel, si ça pose pas de problème, ok, je crois que nous avons un gouvernement. Mais si ça continue à poser problème au niveau des autres partis politiques au sein de la population, je crois qu'il y a un problème à ce niveau-là. Étant donné d'ailleurs que le ministre avait été voté avant la signature de l'arrangement particulier. Encore que l'arrangement particulier qui avait été signé, à comparer avec l'arrangement originel, pose problème. Il faut aussi dire que l'arrangement qui avait été signé n'a pas de chronogramme. Or, si vous allez dans l'exposé du motif, l'arrangement particulier devait être parachevé par un chronogramme. C'est ce qui fait que nous n'avons pas de boussole pour pouvoir mettre en application l'accord. Le chronogramme n'a pas été parachevé et donc on a signé le 24 avril 2017 au Palais du Peuple un arrangement particulier sans chronogramme. En plus que, évidemment, le président a donné mandat au chef aux deux président du Parlement, donc je crois qu'ils en ont eu mandat, mais je me demande si le cadre de la signature était réellement celui-là. Mais en même temps, quand vous allez dans le fond de l'arrangement particulier, vous constatez qu'il y a quelques incompatibilités, et avec l'accord, et avec l'arrangement particulier originel qui avait été déjà presque adopté par les différentes parties prenantes. Et vous comprenez que l'arrangement particulier avait été signé dans un contexte de conflit, étant donné que des crispations politiques disant qu'on doit éviter le dédoublement, mais on a créé un dédoublement. Je ne donne pas un point de vue, je ne fais que constater. Donc, s'il y a quelque part un constat qui est mal fait, je crois que nous allons en discuter. Réforme du fichier électoral, c'est en cours, mais je dois vous rappeler que le président de la CENI, dans les discussions, avait insisté, et déjà depuis la cité de l'OIA, et même lorsque l'opération était lancée, avait dit qu'il finirait le fichier électoral, globalement un fichier consolidé, le 31 juillet 2016. Sur décision de la CENI. Et lors des discussions, il y est revenu. Et quand on a dit qu'on pouvait, au lieu d'aller vers le mois de juillet, avoir un logiciel pour la consolidation instantanée, il a dit « c'est faisable, il existe déjà, mais nous avons besoin, de la CENI, de 60 jours pour consolider le fichier électoral. » Alors, maintenant, c'est à nous d'évaluer si tel que les choses se passent, nous aurons encore la finalisation du fichier au 31 juillet 2017. Ça poserait certainement problème. Mais là, je me pose quand même quelques questions à suivre, telles que la CENI est en train d'argumenter. Est-ce l'évaluation de la CENI ou encore du processus devra constituer une condition pour la poursuite de l'opération? Parce que j'ai suivi le rapporteur de la CENI à travers les médias, KIN 24, avant hier, qui a dit « Mais vous nous demandez de respecter le délai ». Mais on a dit qu'on devra évaluer les opérations électorales chaque 2 mois. Mais le CENSA n'est pas encore là. Nous n'avons pas encore évalué. Comment pensez-vous que nous puissions respecter le délai? Est-ce que rien que l'évaluation de l'opération qui constitue un exercice devra conditionner l'organisation des élections dans le délai? Autre détail par rapport aux acquis, c'est l'organisation des élections en une seule séquence présidentielle, législative nationale et provincial au plus tard décembre 2017. Et là, il y a une ouverture, certainement, il a dit, par rapport à l'appréciation concertée du CENSA, du gouvernement et de la CENI, pour voir est-ce que c'est faisable ou pas. Alors que le CENSA n'existe pas encore, alors on semble justifié, mais puisque le CENSA n'est pas encore mis sur pied, donc on ne peut pas tenir assez de délai. Le CENSA n'est qu'un instrument de suivi et contrôle. Le CENSA ne vient pas travailler à la place de la CENI. Encore que le CENSA ne peut pas venir évaluer des opérations sans un calendrier. Le calendrier, c'est un instrument qui permettrait en fait de réaliser l'évaluation. Mobilisation des ressources internes et externes, nous le voyons, le gouvernement semble élever en priorité la mobilisation des ressources pour les élections. Ça c'est vrai, mais est-ce que la mobilisation est possible avec tout ce que nous vivons aujourd'hui dans le pays? À suivre le compte-rendu du gouvernement, c'est comme s'il y a un placement concurrentiel entre l'organisation des élections et les réponses au social de la population. Donc là, il faut bien réfléchir pour comprendre ce qui va se passer. Je ne vais pas parler de la décrispation, il en a déjà parlé. CENSA, pas encore mis sur pied jusqu'à présent, mais je crois que la loi sur le CENSA ne peut pas conditionner la mise sur pied du CENSA parce que le CENSA peut fonctionner sur base de l'accord, donc d'abord sur base consensuelle. Il ne faudra pas qu'on se dise quoi. Aujourd'hui, on peut le mettre sur pied de manière à ce que les choses puissent évoluer. Qu'est-ce qui est fait? Je crois que je vous l'ai dit. Les institutions à mandat électif, respect de la Constitution, refonte du fichier électoral, volonté effectivement apparente du gouvernement actuel à mobiliser les fonds, 764 millions de dollars, et puis la décrispation, il en a parlé. Qu'est-ce qui n'est pas fait? C'est en fait 90% des choses qui ne sont pas faites. Alors nous disons, est-ce qu'en réalité l'accord est appliqué? Là c'est moi qui parle, je crois que l'accord n'est pas appliqué quasi totalement, surtout dans ces aspects les plus importants. Je doute fort que nous ayons des élections qui nous amènent à une période post-électorale pacifique, qui nous amène à l'alternative de la gouvernance. On pourrait avoir l'alternance, ça c'est possible. Mais ce dont la population a besoin, c'est l'alternative du système de gouvernance de notre pays. Et ça, j'en doute très bien. Je crois qu'il est important de revoir à ce niveau-là. Et je vous remercie.
Merci beaucoup, Monsieur Bissambou. On va terminer les exposés avec François Ndzekuye. Il est député national élu de Rutshuru, pour le compte du PPRD,
le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, membre de la majorité présidentielle. Monsieur le député va nous dire ce qu'on a fait de l'accord à la majorité présidentielle, son application, même si Gérard Wissambou nous dit qu'à 90% l'accord n'a pas été appliqué. Alors à la majorité, on nous dit quoi sur cette application de l'accord? François Ndékouyé, vous avez la parole.
Merci beaucoup de m'avoir associé à cet exercice. Pourquoi les chefs de l'État convoquent les dialogues? Parce que toute la société congolaise a fait le constat du fait que les deux élections que nous avons organisées en 2006 et en 2011 ont entraîné contestation et violence. Ces élections ont été très coûteuses. Ces élections n'ont pas été apaisées et ont entraîné des divergences même dans un même camp. Je suis un élu, je l'ai vécu personnellement. J'ai été en conflit avec mon colistier, qui n'est pas de l'opposition, qui est des mêmes partis que moi, le PPRD, et qui a soudoyé des gens au centre de compilation et à divers niveaux pour interchanger nos voix. Que mes voix soient ses voix et que ses voix soient miennes. Voilà la base de ces dialogues. Ce n'est pas un dialogue entre l'opposition et la majorité. C'était un dialogue de toute la classe congolaise. Je dis toute la classe, je ne dis pas politique. Pour que nous puissions nous doter des élections qui n'amènent pas contestation, qui n'amènent pas violence. Nous savons qu'il y a eu bain de sang en 2006, qu'il y a eu bain de sang en 2011. Et donc voilà le fondement du dialogue. Le fondement du dialogue n'est pas de gérer la suite des mandats des personnes qui animent les institutions à la fin de leur mandat. Non, parce que la Constitution est claire là-dessus et l'accord à ce chapitre 2 y est revenu. Tout le monde est unanime que les statuts des animateurs des institutions est fixé par les dispositions constitutionnelles, notamment l'article 70 alinéa 2, l'article 103 alinéa 2, l'article 105 alinéa 2. Sinon, on aurait un dialogue pour gérer les cas de sénateurs. Sinon, on aurait un dialogue pour gérer les cas de gouverneurs. Sinon, on aurait un dialogue pour gérer les cas de députés provinciaux qui viennent de faire plus de 5 ans au-delà de leur mandat. Et donc, arrêtons ces genres de discours qui veulent donner à l'accord ce qui ne lui était pas dévolu. L'accord n'avait pas comme mission de gérer le statut du chef de l'État. Non. L'accord est celui de la cité de l'OIA, auquel beaucoup d'entre nous avons participé, et celui de la Saint-Sylvestre sont là pour nous permettre d'organiser des meilleures élections. Mais que constatons-nous en réalité? Nous constatons qu'il y a une fixation sur la co-gestion de l'État. Comme si beaucoup d'acteurs, particulièrement de l'opposition, ne pensent même pas aux élections. Ces acteurs pensent à se dire comment je vais être Premier ministre, comment je vais être président du CNSA, et non comment allons-nous organiser les élections. La CENI a commencé à faire l'enrôlement des électeurs. Combien d'acteurs de l'opposition vous avez vu sur le terrain pour aller encourager leurs électeurs à s'enrôler? Combien? Par contre, nous qui sommes accusés à longueur de journée de ne pas vouloir les élections, c'est nous qui dépensons des milliers de dollars pour aller sensibiliser nos électeurs. Nous prenons nos émoluments pour y aller. Moi, je l'ai fait. Les médias le savent, ils m'ont vu à Rutshuru plus d'une fois aller sensibiliser les électeurs, pas avec l'argent du chef de l'État, mais avec les émoluments que je gagne loyalement et qui me sont payés par l'État congolais parce que je rends de bons et loyaux services à la nation. Et donc, chers amis, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons d'abord que l'accord de la Saint-Sylvestre a des erreurs congénitales. Je vais vous expliquer lesquelles. La première erreur congénitale de l'accord de la Saint-Sylvestre, c'est d'abord son mandat. Beaucoup croient que la CENCO s'est autoproclamée médiateur de la classe politique. Non! La CENCO n'est intervenue qu'à la suite de l'accord de la CEDLOIA qui était déclaré non inclusif. Et parce qu'une minorité, je dis bien une minorité de la classe politique congolaise n'y était pas, le chef de l'État a entendu le son des cloches de ceux-là et a voulu que l'accord soit plus inclusif. Et donc, je vous dis, faites attention de ne pas lire l'accord de la Saint-Sylvestre sans l'accord de la cité de l'OIA. Le chef de l'État a voulu que l'accord de la cité de l'OIA soit plus inclusif en y ajoutant ceux qui n'y étaient pas, et c'est cela le mandat de la CENCO. Mais qu'est-ce que nous avons constaté dans les faits? La CENCO a commencé à se considérer comme étant un électron libre. Où est-ce que vous avez déjà vu un mandataire s'émanciper de son mandat? Et cette erreur les a rattrapés à la fin. Parce qu'ils se sont rendus compte à la fin que seuls ils ne pouvaient pas résoudre tout le problème. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés rendre l'établier au mandant en lui disant, vous nous avez mandaté de faire ceci et cela, nous avons réussi à 98%, mais il nous manque 2%. Et vous, qui êtes les mandants, prenez la responsabilité d'achever ce que nous n'avons pas pu achever. Première erreur congénitale. Deuxième erreur congénitale, et je l'ai dit, c'est dans l'entendement même de l'accord par la classe politique congolaise et l'opinion internationale aujourd'hui, où tout le monde, ou presque tout le monde, veut nous faire croire que toutes les institutions aujourd'hui ne sont valables que parce qu'il y a eu l'accord. J'ai même entendu Gérard le dire ici. Heureusement que nous avons eu l'accord. Non, avec ou sans accord, les institutions allaient exister. C'est la Constitution qui accorde la légitimité. Il y a eu, bien évidemment, des ententes, parce qu'on estime effectivement que les mandats officiellement sont dépassés, mais est-ce que pour pouvoir co-gérer les pays, nous sommes allés au Sénat pour dire les non-élus peuvent entrer au Sénat parce que les sénateurs sont en dépassement de mandat? Non. Est-ce que nous sommes allés aux assemblées provinciales pour dire et parce que les assemblées provinciales sont en dépassement, il faut qu'on partage les pouvoirs aux assemblées provinciales? Non. Est-ce que nous l'avons fait avec le gouvernement de province? Non. Pourquoi? Parce que nous estimons que la Constitution ne le permet pas. Par contre, nous l'avons fait au niveau du gouvernement central parce qu'il y a une ouverture constitutionnelle aussi qui peut faire qu'on peut élargir une majorité à un moment donné. Même si mes amis de l'opposition ne les prendront de cette manière-là, mais c'est la seule ouverture qui a permis aujourd'hui que nous ayons un Premier ministre issu de l'opposition. Et à ce titre, nous estimons que c'est quelque chose de bon. Même si pour nous, à la majorité, si nous devons les regarder d'un œil quelconque, nous disons, ça nous préjudicie. Vous croyez que tous les acteurs de la majorité sont contents de voir un Premier ministre de l'opposition? Vous croyez qu'ils sont contents de voir les ministères partagés ou des frustrations vont en frustration au niveau de la majorité parce qu'il y a des insatisfaits? Vous êtes déjà à la presse, vous connaissez les déclarations des uns et des autres. Donc, la majorité s'est fait violence. J'ai entendu des gens ici dire que la majorité s'est complet à la gestion. Non. Kabila et sa majorité ont commencé les dialogues depuis 2013. Simplement 2 ans après les élections. Parce que nous avons été conscients qu'il y avait un problème. On n'a pas attendu 5 ans pour pouvoir commencer à dialoguer. Et si l'opposition, et là où je voulais revenir, était suffisamment mûre et responsable, nous n'en serons pas là aujourd'hui. Ça, beaucoup de gens de la société civile ne le disent pas. Parce qu'ils sont inféodés à l'opposition. Ils ne le disent pas. Les concertations ont commencé avec l'opposition. Les concertations n'ont pas réussi par rapport aux questions électorales, d'accord. Mais qu'est-ce qui s'en est suivi? Il y a eu ces rencontres à Venise, à Ibiza. On ne le dit pas. C'est comme si l'échec aujourd'hui éventuel des dialogues de la CENCO est quelque chose qui est généré en 2016. Non. Nous avons dialogué avec eux depuis 2014. Nous avons entamé les discussions avec eux. Il y a eu les textes ici de l'accord de la CDLOIA, Madame Bando, vous étiez avec nous, avaient été discutés déjà avec l'UDPS. Les modalités d'application étaient convenues. Mais c'est le volte-face de l'opposition qui nous amène là où nous sommes aujourd'hui. Pourquoi vous n'avez pas le courage de le dire? Pourquoi? Pourquoi vous donnez l'impression que les opposants sont sains et nous, nous sommes des diables? Nous nageons tous dans la même mare. Nous sommes tous des animaux politiques. Nous voulons conserver le pouvoir, oui, mais nous n'avons pas honte de le dire. L'opposition veut conquérir le pouvoir, oui, mais nous n'avons pas honte de les concéder. C'est normal en politique. Vous avez vu ce qui se passe en France aujourd'hui. comment on a massacré les pauvres Fillon, qui étaient bien partis pour être président de la République. Est-ce qu'on a blâmé les PS, qui lui reste, n'a ramassé que des miettes après son coup? Mais c'est de la politique. On ne vient pas en politique pour jouer au football, non. Il y a des intérêts divergents. Et nous, la majorité, nous voudrions rester au pouvoir même 50 ans, si c'est possible, mais par la voie électorale. On entend parler de l'alternance. Nous, nous disons, nous aurons des élections, mais l'élection ne signifie pas nécessairement alternance. Il peut y avoir élection et le même camp reste au pouvoir. Parce que les discours de nos amis ici, on entend toujours alternance, alternance. Comme si, dès le jour où on organise les élections, l'opposition est gagnée automatiquement. Non. Nous voulons qu'il y ait des élections. Et donc, je disais qu'il y a eu des erreurs congénitales. L'autre erreur congénitale, c'est n'est pas déterminé dans l'accord quand est-ce qu'on va finir l'enrôlement des électeurs. Ils se rabattent sur l'accord de la CIDE et de la LOIA. C'est pour ça que je vous dis, faites attention, ne lisez jamais l'accord de la Saint-Sylvestre sans l'accord de la CIDE et de la LOIA, parce que vous risquez d'être piégé. L'accord de la Saint-Sylvestre est muet quant à la fin du processus de l'enrôlement. Pire, l'accord de la Saint-Sylvestre donne des marges de manœuvre, des discussions. Si au 30 décembre, on n'est pas prêt à organiser les élections, ils peuvent se concerter encore. Mais à la suite de l'OIA, nous avons dit que les élections vont avoir lieu au plus tard, en avril 2018. Qui dit mieux? Donc, cet accord a des erreurs congénitales graves. Et ces erreurs, il ne faudrait pas que les gens, en décembre, j'entends déjà certains à l'extérieur commencer à raconter, si le 30 décembre, il n'y a pas d'élection, on fera ci, on fera cela. Mais l'accord que vous avez signé vous donne la possibilité de discuter. Si vous vous rendez compte, vous n'êtes pas prêt à organiser les élections. Alors vous allez faire quoi pour quoi? Et donc, de mon point de vue, j'estime aujourd'hui que cet accord, que moi je considère pas parfait, a donné quelques résultats. Le premier résultat, c'est le gouvernement. Nous avons un gouvernement issu de l'opposition, du rassemblement. Est-ce que c'est la faute de la majorité que les rassemblements soient divisés? Encore une fois, je rirai si vous le dites. Parce que j'en connais qui diront, oui, c'est nous qui avons divisé les rassemblements. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à nous diviser, nous? Vous en avez aussi les droits. Est-ce qu'on vous interdit de nous diviser, nous? Non, personne ne nous interdit de nous diviser. Si nous sommes capables de vous affaiblir, c'est de notre faute. Dès lors que notre objectif à nous, c'est de conserver le pouvoir. Et si nous pouvons le conserver en vous affaiblissant, en quoi cela est-il notre faute dans les jeux politiques normaux? Donc, les rassemblements ont un premier ministre. Les rassemblements ont des ministres au gouvernement. C'est une bonne chose ou pas par rapport à l'accord? C'est un respect de l'accord. La CNSA, c'est le ou la, je ne sais pas. Le voilà. Oui. Les abréviations ont toujours ces problèmes-là. Le CNSA n'est-il pas appliqué? Est-ce la faute de la majorité? Encore une fois, non. Le CNSA n'est pas appliqué aujourd'hui, parce qu'on a dit qu'il peut être fait même avant la loi. Mais il y a eu Maman Sidikou, vous le connaissez, qui a eu mission de se concerter avec les rassemblements pour arriver à ce que le rassemblement est limité puisse chapeauter le CNSA. Mais nos amis, encore une fois, qui pensent aux élections, apparemment, on déclinait l'offre. Le chef de l'État a d'autres préoccupations. Il y a la sécurité au Kassai. Et je suis désolé de comprendre que dans cette assemblée, seulement Madame Bamandoa a évoqué la question sécurité de manière précise. Gérard l'a fait, mais sans préciser. On ne pèse pas suffisamment la question sécuritaire dans notre pays. Et si nous n'avons pas des élections, nous n'avons pas eu des élections qu'en 2016, entre autres raisons, c'est la question sécuritaire. Il faut l'admettre. Les armes, ça coûte cher, et ça coûte d'autant plus cher pour un pays qui était sous embargo. Il y a des avancées du point de vue électoral. L'enrôlement évolue. Il faut le dire. 26 millions d'enrôlés existent déjà ou plus, parce que le jour où il y a le Conseil des ministres, Corneille Nangaa l'a dit au gouvernement, nous avons 26 millions d'enrôlés. N'est-ce pas une évolution? Nous avons voté un budget il y a quelques jours, avec 11 000 milliards de francs congolais qui vont être mis à disposition de la CENI. Chaque mois, on met 40 millions de dollars à disposition de la CENI pour que la CENI fasse son travail. Ce n'est pas une volonté de pouvoir aller aux élections, celle-là? Et ce n'est pas un respect de l'accord? On a commencé à changer les animateurs de la CENI selon la volonté disposition des chapitres 4.3b de l'accord. L'MRC a demandé de changer les caisseurs adjoints, on l'a changé. La majorité a demandé de changer les caisseurs, on l'a changé. Ce sont là les vraies réalisations de l'accord. Attendre autre chose, c'est des mirages. Quand j'entends Gérard dire qu'à 90% de l'accord n'a pas été appliqué, qu'ils nous disent, qu'ils nous énumèrent les 90%, c'est quoi? Parce que pour moi, presque tout a été appliqué. Et ce qui ne l'est pas, ce n'est pas la faute de la majorité, c'est la faute de l'opposition. Et donc, j'estime aujourd'hui que nous sommes sur une bonne voie pour organiser les élections. Les aurons-nous en décembre 2017? J'ai dit non. Moi, je vous dis non. Nous n'aurons pas les élections en décembre 2017. Nous n'aurons pas les élections en décembre 2017, ça n'engage que moi, ça n'engage pas la majorité. Parce qu'en analyste, je vois les faits comme ils sont. Si on veut l'alternance, comme l'opposition le dit, il n'y aura pas d'alternance sans élection. Mettons-nous ensemble pour que nous arrivions à organiser de bonnes élections. Le temps n'est pas le plus important, ni pour nous, ni pour eux, parce qu'ils voulaient entrer au gouvernement pour co-gérer avec nous probablement le plus longtemps possible. Et donc, nous ne voulons pas de ça. La co-gestion doit être de courte durée. Nous devons aller aux élections, que les meilleurs gagnent et gouvernent la République du Congo. Donc, ayons l'apaisement, allons dans la confiance mutuelle pour que nous puissions animer ces institutions préélectorales qui ne sont pas des institutions transitoires, parce qu'il n'y a pas de transition à la République du Congo. Il existe un dépassement de mandat, oui, mais nous pouvons gérer cette période préélectorale et électorale en harmonie si nous voulons vraiment bien qu'il y ait des élections dans ces pays. Nous les voulons à la majorité, que l'opposition nous démontre qu'il le veut. La société civile qui nous encadre et qui cesse d'être partisan, je ne suis pas d'accord qu'il y ait de la société civile pro-majorité, de la société civile pro-opposition. Je veux qu'il y ait seulement une société civile qui nous observe tous les acteurs politiques pour que nous puissions organiser les élections et que le peuple décide de qui il veut être dirigé. Je vous remercie.
Merci beaucoup. On a terminé les exposés. On va passer au jeu de questions et réponses.
C'est Madame Amara, Agence Congolaise de Presse. Ma question s'adresse à Madame Odette. Madame, selon vous, quel est le nœud du problème pour que l'accord n'ait pas été signé entre les deux parties? À qui la faute?
Merci, Frédéric Chioyo, RTVS 1. Ma question, je l'adresse à Monsieur Nzekouy et François. Les élections se préparent et on dit souvent gouverner, c'est prévoir. Il y a eu des expériences, la première en 2006, il y a eu les élections, on a connu ce qui est comme irrégularité ou difficulté, il fallait quand même prendre des mesures pour éviter à la prochaine session de même bavure. 2011, même chose. Est-ce que ce n'est pas fait à dessein par vous de la majorité? Vous l'avez dit, et c'est aussi légitime de vouloir construire le pouvoir, mais avec qui comme lieutenant? Kabila seulement, puisque le Oumela, on attend ça et là, Oumela, Oumela. Est-ce que la MP est prêt à aller aux élections sans Kabila ait gagné les élections?
Prenons Monsieur Michel.
Moi, je vais m'adresser plus aux deux délégués de la société civile, que je peux considérer comme ça, à Cage, que ce soit à la SEMCO aussi. Pour vous, vu ces tableaux, vu tout ce qui se passe là, on a retiré la confiance à la SEMCO, on donne à Maman Tsidikou. Qu'est-ce que vous espérez voir dans le jour qui vient? Parce que M. François Zekoui a précisé, il veut que vous soyez peu neutre, que vous aidez le politique d'aller aux élections. Qu'est-ce que vous projetez, que ce soit la SEMCO ainsi que la CAJ?
D'accord, on peut répondre à ces questions.
Vous voulez savoir pourquoi l'accord n'a pas été signé? L'accord a été signé. C'est l'arrangement particulier qui a posé problème. Maman, en tout cas moi, c'est la classe politique congolaise tout entière que moi je condamne dans la situation que nous sommes en train de vivre en République démocratique du Congo. Les acteurs politiques sont trop égoïstes. Chacun ne court que derrière ses propres intérêts. Majorité comme pouvoir, comme opposition, chacun ne court que derrière ses propres intérêts. Si nous avions vu grand, si nous avons vu l'intérêt général de la nation, on ne pouvait pas arriver à cette situation. Les représentants de la majorité ont dit ici que c'est depuis 2013 qu'ils ont cherché le dialogue. Je le lui concède. Mais je crois que c'est depuis l'échec des élections qu'on a tous décrié qu'on devait chercher le consensus. Et moi, j'ai une pétition que je garde encore chez moi, que j'avais préparée. J'ai vu les acteurs politiques pour demander qu'il y ait échec pour l'organisation de ces élections. nous devons trouver un consensus pour préparer les 5 ans qui viennent pour que nous ayons les bonnes élections. Même ceux de l'opposition n'ont pas accédé, adhéré à ma demande. Mais en 2013, quand ils ont demandé les concertations, moi, dans l'opposition, j'avais demandé qu'on aille dans ces concertations-là. Parce que si nous tous, nous étions partis dans ces concertations-là, avec toute la force qu'avait l'opposition, nous allions réussir à changer les choses. Mais je ne sais pas expliquer comment l'opposition n'était pas partie à ces concertations. C'est pourquoi les élections que nous attendons cette fois-ci, ça doit être les élections où le peuple a bien les regards là-dedans. Parce que nous voulons avoir des délégués du peuple qui parlent pour l'intérêt du peuple et qui va se battre pour que ce Congo ici soit géré autrement. Nous ne parlons pas de l'alternance. Nous parlons de la gestion alternative de l'État. Même si c'est quelqu'un de pouvoir qui passe, mais qui nous amène une gestion alternative de la chose publique. Pas la même gestion qui nous condamne à la misère aujourd'hui. Donc, pour moi, l'accord a été signé. C'est l'arrangement particulier qui pose problème à cause des acteurs politiques.
Merci, madame. Vous votez sur le micro à l'honorable Ndekui.
Oui, Frédéric Chioyo me dit que les violences qui ont émaillé le processus électoral depuis 2006 et en 2011 sont les faits de notre volonté. Non, Frédéric Chioyo, vous êtes journaliste et les journalistes les assimilent à des historiens. Mais ce caractère d'historien nous fait défaut dans la presse congolaise. En 2006, au premier tour des élections, Kabila passe premier, et Jean-Pierre Bemba deuxième, Gizenga troisième. Kabila est allé vers Jean-Pierre Bemba, chez lui à la maison, pour lui dire, écoute, on peut faire un deal, une alliance, vous et moi, pour que nous puissions gérer ensemble le pays. Jean-Pierre Bemba a régné cette main tendue du chef de l'État. Vous vous rappelez? Nous sommes allés aux élections, Jean-Pierre Bemba a été battu et il a engagé la guerre en pleine ville. Ce n'est pas la garde présidentielle ni l'armée qui a commencé la guerre, vous le savez très bien. Donc c'est l'effet de l'opposition. En 2011, nous allons aux élections, il y a eu encore des violences. Ces violences, je vous rappelle, à Matete, les militants de la UDPS ont tabassé les militants du Palou. Vous vous rappelez de cela? Bien évidemment, je vous l'ai dit dans mon développement que la violence en 2011 a été généralisée et a opposé même les gens des mêmes camps politiques. Et donc, ça ne peut pas être le fait de la majorité. Nous n'avons pas besoin de la violence pour être élus. Nous, nous ne crions pas que nous avons la population avec nous, mais nous le faisons savoir dans les urnes. Nous avons gagné en 2006, nous avons gagné en 2011 et nous allons gagner quand on va organiser les prochaines élections. Parce que nous allons... Je vais répondre à cette question, je ne suis pas quelqu'un de la langue de bois, vous me connaissez très bien. Alors, élection avec ou sans Kabila. Kabila lui-même vous a plusieurs fois répondu sur son sort. La dernière fois qu'il vous a répondu, c'est en avril de cette année. Il vous a dit, ceux qui s'inquiètent à longueur de journée de mon sort, qui s'apaisent, ils savent que nous avons une constitution et les sorts des animateurs de la République sont gérés par la Constitution. Pourquoi voulez-vous seulement qu'il vous dise « je ne me présenterai pas » Pourquoi vous voulez entendre ces mots-là? Dès lors qu'il vous dit « je respecterai la Constitution », pourquoi ne voulez-vous pas lire la Constitution et connaître les contenus de la Constitution? Il vous envoie à un exercice intellectuel, ça vous fait mal? Donc, nous aurons un candidat de la majorité au moment où les élections vont être organisées. Nous connaîtrons les candidats quand on va convoquer l'électorat, quand on va dire « venez déposer vos candidatures, vous verrez les candidats de la majorité, pourquoi vous êtes pressé de les connaître? Si vous les aimez la majorité, vous voterez pour lui. Si vous ne l'aimez pas la majorité, vous voterez contre. Où est votre problème? C'est notre affaire à nous d'organiser notre cuisine interne. Pourquoi vous voulez vous en mêler? Ce n'est pas votre affaire. Alors, je profite quand même du micro que j'ai pour répondre aussi à une question à laquelle je voulais répondre avant, de la décrispation. J'entends tous les jours les gens nous disent ici, oh Moïse Katumbi, oh Nani Muyambo, mais est-ce que vous vous rappelez dans quelles conditions Moïse Katumbi est parti en Europe? Croyez-vous qu'il est parti sans autorisation du pouvoir? Il est passé par où? La deuxième ne pouvait pas l'arrêter? Il est parti avec la bénédiction du pouvoir pour se faire soigner. Et s'il veut revenir, il n'a qu'à revenir. Personne n'empêche Moïse de rentrer au pays. Mais c'est injusticiable comme vous et moi. Il répondra à la justice du fait qu'ils sont incriminés. Et un jour, je vous dirai ce qu'est Moïse. Pas aujourd'hui, je ne suis pas venu ici pour parler de lui. Mais je le connais. Un jour, je vous dirai ce qu'est Muyambo. Je le connais. Beaucoup de gens plaident pour lui, mais ne le connaissent pas. Et je suis malheureux de me rendre compte que c'est la société civile qui plaide pour ces gens, ces personnes-là. Et ils savent, ceux-là qui plaident pour eux, savent tout le mal que ces gens-là ont fait contre les paisibles citoyens.
Oui, vous avez la parole, maître.
Il faut toujours faire la différence entre une infraction du droit commun et une violation des droits de l'homme. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas, nous, en tant que société civile, entrer dans les affaires privées de Moïse Katumbi ou soit de Jean-Claude Muyambo ou les autres. Ça ne nous concerne pas. Nous, ce que nous sommes en train de faire, nous voulons seulement que les principes de la démocratie et les principes des droits de l'homme soient respectés. Il y a un principe en droit ici qui consacre la présomption d'innocence pour chacun de nous. C'est-à-dire que si quelqu'un commet une infraction, cette personne peut être jugée jusqu'à ce que une juridiction compétente établisse sa culpabilité, là cette personne sera condamnée. Mais ce que nous dénonçons, c'est quoi? C'est la procédure, les irrégularités et toutes sortes de bévues qui se commettent, l'instrumentalisation de la justice. Pour certaines personnes, il y a une façon de les traiter, pour les autres, il y a une autre façon de les traiter. Le problème dans notre pays, c'est le problème des respects de texte. Ça, il faut qu'on se le dise sincèrement. Nous ne respectons pas le texte. L'accord de la Saint-Sylvestre, à peine signé, à peine, elle a été violée. Et elle a été violée dans presque tous ses articles. Il y a eu les gens qui voulaient, par les intérêts politiques, que jusqu'à aujourd'hui, moi, je me pose la question de savoir... La politique, on nous dit souvent, c'est les intérêts. Les intérêts de qui? Est-ce que ce sont les intérêts des acteurs politiques ou ce sont les intérêts de la population? Parce qu'il y a des principes, il y a des valeurs démocratiques que nous devons respecter. Et si ces valeurs démocratiques ne sont pas respectées, moi je pense que ce sont les intérêts égoïstes que les politiciens sont en train, tout ce que les politiciens sont en train de faire. L'accord est signé et quelques jours après, l'accord entre en souffrance parce qu'il y a un arrangement particulier qui devrait être signé. Mais on nous dit aujourd'hui que on se balance, hein, on se balance la faute. Tantôt on dit que c'est la majorité, tantôt on dit que c'est l'opposition. Mais nous disons respectons les textes parce que l'accord de la Saint-Sylvestre donne les principes phares. Et l'arrangement particulier devrait être signé sur base de ces principes. Mais déjà aujourd'hui, l'arrangement particulier a été tripoté à la faveur d'une classe politique. Tout le monde nous le savons. Et cet arrangement particulier qui a été signé en dehors des autres participants au dialogue de la Saint-Sylvestre, est-ce qu'on peut se poser la question de savoir est-ce que ça vaut aujourd'hui cet arrangement particulier? C'est ça le problème. Respectons le texte. Nous disons que le train a déraillé et l'accord de la Saint-Sylvestre était en train de nous ramener justement au retour de l'ordre constitutionnel. Et qui était en train de conduire ce train? C'est le chef de l'État parce que c'est lui qui doit respecter, c'est lui qui doit défendre la Constitution. Et donc, respectons les textes. Et si chacun de nous s'engage avec une minime de sincérité, je crois que ce pays ici va sortir dans la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Merci.
Merci beaucoup, Maître Bopol.
Monsieur Bissambo. Je crois qu'il faut recadrer une chose. Lorsque l'honorable parle de l'erreur congénitale, quelque chose est congénitale lorsqu'elle naît des gènes. L'erreur congénitale de l'accord, c'est le fait que le dialogue de la CENCO avait été demandé par le président de la République et que lui-même est resté transcendant. Ça, c'est tout à fait important. Quelqu'un qui est transcendant, c'est quelqu'un qui est au-dessus de tout, qui peut bousiller tout,
même lorsque, en fait, on lui apporte quelque chose de bien. Transcendant, ça signifie est-ce qu'il est vraiment dans la volonté de pouvoir résoudre le problème. C'est ça l'erreur congénitale. En son temps, j'avais adressé une réflexion aux évêques pour leur dire ce dialogue demandé par le président de la République, s'il lui-même ne démontre pas de l'engagement de s'y impliquer profondément, va nous rattraper. Ça, c'est clair. Les évêques étaient à tout moment en contact avec, soit si pas le président lui-même, soit avec le bureau du président. Néhémie, président de la République, mais très régulièrement avec le président de l'Assemblée nationale, chaque fois qu'il y avait un problème. Ce qui a fait problème, c'est quoi? Ce qui a fait problème, c'est le fait que la plupart des composantes politiques étaient tout à fait cantonnées à leur propre position par rapport aux deux points qui ont fait bloquer la signature de l'arrangement particulier. Et c'est surtout la majorité présidentielle qui, pour elle, se disait, si le président de la République n'a pas la liste des trois candidats, eh bien, nous ne marchons pas. Deuxièmement, si l'on ne peut pas revenir sous forme de consensus à la décision pour ce qui est du président du CENSA, nous ne nous engageons pas. On a eu affaire une semaine autour de la même question. Eh bien, les évêques ayant compris que ça venait de quelque part, ils sont allés. Et je crois quand même qu'à ce niveau-là, il fallait que le président de la République analyse la question froidement et voit comment trouver solution de manière à ce que l'arrangement particulier soit signé dans la logique qu'il fallait. Quel type d'élection la CENI nous apporte? Est-ce que la CENI nous apporte des élections crédibles et transparentes de manière à aller vers l'alternance? L'alternance, ça peut être quelqu'un de la MP. C'est tout à fait normal, c'est une alternance. La condition, c'est que l'actuel président ne puisse pas se représenter. Mais nous tenons à l'alternative. Si jamais le nouveau candidat de la MP qui deviendra président, puisqu'ils disent qu'ils vont gagner, ils ont une centrale électorale, s'il nous amènerait un bon système de gouvernance qui pourrait résoudre les problèmes socio-économiques du pays, eh bien nous sommes partie prenante.
Merci beaucoup d'être venu. C'était un plaisir de vous recevoir dans le cadre de ce café de presse, état des lieux de l'application de l'accord du 31 décembre, 6 mois après. Et merci à la disponibilité de nos panélistes d'être venus ce lundi 19 décembre ici au Centre de ressources des médias. Mesdames et messieurs, je crois que nous nous reverrons très prochainement pour un autre café de presse.